Alors, l'UPAC est un sujet populaire cette semaine pour plusieurs raisons. Mais il faut évidemment s'interroger sur le rôle et le statut de l'UPAC.
Aïe aïe, comme vous disiez ce matin. Aïe, viens-tu te dire aïe aïe, moi?
Oui, oui, tu viens
dire. Pour commencer par ça.
Oui, oui, on va s'interroger. Puis oui, parce que là, l'UPAC, moi, je m'interrogeais beaucoup hier en particulier, parce que je me dis, coudonc, est-ce qu'on est confronté à un organisme qui est en train de ressembler à une police secrète? Parce qu'il y a des agissements hier qu'on contestait. Là, on comprend un peu mieux. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est d'abord que l'arrestation de Guy Ouellet, même s'il n'est pas nommé, tout le monde sait que c'est lui. Elle a été préautorisée par un juge.
Non,
donc...
non.
Ah non?
Dans le cas de l'arrestation, c'est une disposition du code criminel qui permet... Les techniques ont été autorisées par le DPCP et tout ça.
Le fait de prendre le téléphone de quelqu'un...
Mais la raison, c'est que c'est a posteriori, il faut qu'il aille faire approuver l'urgence qui existait. C'est ce que j'en comprends.
T'as une disposition, puis c'est ça qu'on parlait avec Maître Roy. Tu peux arrêter quelqu'un, ça se fait assez souvent. T'as pas besoin de mandat, mais tu veux pas que, par exemple, la preuve disparaisse.
Ben, c'est ça.
OK, mais ça, t'as pas de mandat dans son cas.
Donc, il avait pas besoin de mandat, mais ils l'ont procédé. En fait, ils ont le... C'est une procédure qui arrive assez régulièrement.
Oui. Oui.
Mais ce qu'on comprend derrière tout ça, c'est que il fallait qu'ils interviennent rapidement. Il semble bien que ce soit pour saisir le téléphone et empêcher Monsieur Ouellet, on présuppose dans les hypothèses de pouvoir communiquer. Autrement dit, d'être encore un des éléments qui participent de la fuite qu'on cherche à colmater. C'est ça qu'on comprend dans... On est obligé de se rapporter à des hypothèses. Jusqu'à un certain point, c'est rassurant de savoir, en tout cas, qu'ils ont eu les autorisations nécessaires pour faire un certain nombre de perquisitions et que la procédure qui a été appliquée au député Guy Ouellet fait partie d'une procédure qu'on applique généralement. Là où elle est exceptionnelle, c'est bien sûr parce qu'il s'agit d'un député, mais comme le disait Maître Roy, il n'y a pas de statut particulier pour un député au regard de la loi et de la justice. Bon, moi ça, il y a quelque chose là qui, je sais pas, ça me donne de l'air un peu. L'autre aspect, c'est que je regardais le mandat de l'UPAC, puis je regardais aussi la contestation ou les demandes de l'opposition de nouveau pour que le commissaire soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée. Ce matin, il y a un article d'une avocate dans Le Devoir qui parle de ça, qui dit qu'il ne faut pas confondre quand on demande aux deux tiers de l'Assemblée de choisir quelqu'un, de nommer quelqu'un, comme la vérificatrice, le vérificateur ou la vérificatrice générale, ce sont des matières qui relèvent de la compétence de l'Assemblée générale. Tandis que dans le cas du commissaire, on tombe dans le judiciaire et faire cela, ce serait en quelque sorte rapprocher le politique du judiciaire, ce qui n'est jamais bon. Ceci dit, quand il y a une nomination du commissaire, c'est le cas de M. Lafrenière, c'est ça. C'est un comité consultatif qui recommande trois noms et c'est le premier ministre et ses ministres qui décident de la personne. Fait qu'on n'est pas loin du politique aussi. Donc, c'est pas un argumentaire très convaincant.
Mais il y a des questions, si on regarde les réseaux sociaux, les commentaires des gens, les questionnements des gens... Comment dire, quand il y a eu, commission Charbonneau, même avant, là, quand il y avait la demande qu'une commission comme la commission Charbonneau se tienne, on s'est beaucoup rabattu, c'est-à-dire que la population a beaucoup de perte de confiance envers le politique, puis il y a eu comme une espèce de bénédiction du pouvoir policier, là, tu sais, la création de l'UPAC, là, il y avait une espèce d'enfant, c'est comme si on se disait, les politiciens sont dépourris, là, puis là, il y a une police qui va les surveiller.
Je me souviens de la phrase, je ne sais pas qui l'avait dit, on ne veut pas voir des bandits à la caméra, à la télé, on veut les voir en prison.
C'est ça. Exact. Donc, c'est une espèce de glorification de la police.
Faut se souvenir là, que ça a été arraché. La création de l'UPAC a été une réponse au harcèlement de l'opposition face au gouvernement libéral.
Questionnement de...
Puis M. Charest a fini par accoucher de l'UPAC, mais sous contrainte.
C'est ça. Puis là, on voit la police, la Sûreté du Québec qui perquisitionne le SPVM. On voit l'UPAC. Les gens se posent la question. Les gens se disent, est-ce que l'UPAC met pas plus d'énergie soudainement pour une fuite que pour les enquêtes elles-mêmes? Les gens se posent toutes sortes de questions. Et c'est juste un rappel. Je dis tout ça parce que c'est une dure semaine là, pour les institutions. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire. Juste un rappel que tous les pouvoirs doivent avoir un contre-pouvoir. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... tous les pouvoirs peuvent être bons. Tous les pouvoirs, en théorie, sont là pour le service du public, au premier abord. Mais tous les pouvoirs sont susceptibles d'être détournés à d'autres fins, à d'autres intérêts, ou tout simplement sans être détournés la tentation d'en abuser, là, tu sais, de dire, ben là, moi, j'ai le pouvoir, je vais en profiter pleinement et un peu plus, là, tu sais. Et donc, tous les pouvoirs doivent avoir un contre-pouvoir, incluant le pouvoir policier. Je pense que c'est le questionnement cette semaine à travers l'UPAC. Là. C'est-à-dire, oui, on veut en faire un corps policier qui est fort. Oui, on veut en faire un corps policier qui est capable d'aller... qui laissera personne là, jusqu'au plus haut niveau du gouvernement qui peut, si des actions répréhensibles sont faites, qui peut agir, qui a les pouvoirs d'agir. Mais en même temps... les experts en éthique disent, tu sais, attention, là. Les gens qui sont responsables d'attaquer la corruption... Ben, prenons les cas de la mafia. Là. Les escouades anti-mafia des corps policiers sont les plus en danger d'être infiltrés par la mafia parce que, je veux dire, un corrupteur, là, tant qu'à s'attaquer à quelque chose, c'est aussi bien. Donc, si quelqu'un voulait corrompre quelque chose au Québec,
il va s'attaquer au cœur.
Donc,
Et en ce sens-là, tu as raison. Le respect, ben, c'est parce qu'on est. C'est un principe. Tout le monde dit, il faut que l'exécutif, le politique et le judiciaire, ça soit trois entités complètement différentes, que l'une ne puisse pas intervenir. Mais la question qui se pose, c'est quand le policier, dans ce cas-là, qui est une partie du judiciaire, agit et que personne n'est capable de regarder par-dessus son épaule, là, on se dit, oui, mais il y a la crainte que ça devienne comme un véhicule fou, en quelque sorte, un véhicule incontrôlé. Et donc, quand il s'agit de policiers, là, c'est assez grave. Puis on l'a vu dans le cas des interventions auprès des journalistes. Un pouvoir policier qui n'est pas limité dans ses agissements peut aller très loin au niveau démocratique jusqu'à surveiller des journalistes puis intervenir. C'est ça le sentiment qu'on a eu cette semaine, non?
Oui, tout à fait. Non, mais c'est ma réflexion, c'est qu'il faut... Et donc, l'UPAC, comme tous les autres corps, doit avoir, dans la façon de faire la nomination de ses officiers, dans les règles de gouvernance, de surveillance de ce qui s'y passe... T'sais, l'UPAC peut pas être plus forte que le gouvernement, dans le fond. C'est ça que je veux dire. Tu peux pas avoir tous les partis politiques qui arrivent aux élections, tout le monde a peur de l'UPAC, puis je pense aussi à long terme, là, tu sais, l'UPAC, c'est encore tout nouveau. Souvent, mon expérience des organisations publiques, c'est que les premières années, les gens ont le couteau entre les dents et sont plus actifs. Quand les mauvaises habitudes s'installent, c'est avec le temps, là, tu sais, c'est avec l'usure du pouvoir touche pas juste les gouvernements élus, l'usure du pouvoir touche aussi les organisations bureaucratiques. Donc,
mais c'est parce que l'UPAC t'a ça par vague. Tu sais, le dernier élément, je pense, fort, c'est l'arrestation, mais le fait que Gilles Vaillancourt ait plaidé coupable puis qu'il soit en prison.
L'UPAC a des résultats impressionnants. Oui.
Ils ont ramassé son fric. Pour dernière nouvelle, il n'est pas supposé y en rester. Puis si jamais on en trouve d'autres, là, il retourne en dedans. Puis bon. Mais là, le prochain test, c'est le procès de Marc-Yvan Côté, Nathalie Normandeau.
Oui.
Ça, c'est assez important comme test.
Parce que quand ces arrestations-là ont eu lieu, on sait bien que c'était au moment du renouvellement du mandat de M. Lafrenière. Et c'est clair que l'UPAC a agi avec, disons, un calcul politique. Il y avait un calcul politique.
Ce qu'il a nié.
Il l'a nié,
mais à tort ou à raison, dans les milieux politiques et juridiques, là, il circule comme une traînée de poudre cette idée que finalement, contre Nathalie Normandeau, ils n'ont rien. L'avenir nous le dira.
On verra le procès. Puis là, c'est sûr que mâchurer, c'est long. Puis je le répète depuis je sais pas combien de fois. Là. Ça a pris juste 3 ans pour pouvoir finalement, en Cour suprême, obtenir la permission d'aller fouiller dans des éléments de preuve potentiels qui concernent Marc Bibeau. 3 ans où on mettait des obstacles juridiques. C'était légal de faire ça, là.
Mais comme disait l'avocat, M. Bibeau avait le droit de faire valoir ses droits.
Absolument. Mais ça retarde une enquête, veut pas. Puis moi, je le sais, là, à l'interne, là, il y a de la frustration d'un bon nombre d'enquêteurs qui trouvent que ça va pas assez vite, qu'eux aimeraient aller plus vite. Puis là, le DPCP dit, ben là, allez me chercher un complément d'enquête. Puis là, il faut avoir toute la preuve. Parce que si on part ça, là, mettons, demain, on part, puis on arrête certaines personnes, pour reprendre l'expression, on passe les bracelets. Mm-hmm. Ben là, le chrono, boum, ça démarre. Puis là, c'est, assurez-vous que le procès va se dérouler dans un délai normal parce qu'ils vont nous sortir l'arrêt Jordan.
C'est bien invoqué comme étant une des raisons de l'espèce d'opacité qui entoure l'UPAC. Ils protègent jusqu'à un certain point la preuve qu'ils sont en train d'accumuler. S'ils veulent réussir à arrêter quelqu'un puis à empêcher ou à dénoncer ce qu'il y a eu comme corruption. Sauf. En même temps, cette opacité-là, s'il y a jamais de lumière qui pénètre, elle nous inquiète comme citoyens.
Ouais. Sauf que Paul t'explique bien les délais, tout ça, de mâchurer. Mais monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça à matin, lit les commentaires sur les réseaux sociaux, ils disent, t'as l'impression qu'ils ont mis des moyens d'enquête, des efforts, une rapidité pour trouver une fuite, plus que pour trouver les vrais dossiers. Là.
Tu comprends? Non, non, ça, c'est sûr que la perception...
Oui, mais
ça.
En même temps, si tu as une fuite...
Ah, qui nuit au dossier, on comprend ça.
Là, ça veut dire que, potentiellement, la preuve que tu es en train d'accumuler pourrait ne plus rien valoir.
C'est ça.
Donc,
non, non, on comprend
c'est ambigu,
ça.
Là. On est, moi, je trouve qu'en tout cas, on est malmené sur ce bateau-là là, actuellement.
On s'arrête là-dessus au retour. La Catalogne, ça bouge beaucoup. La 132, Marc.